Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Pourquoi quatre fois bonjour Mathieu Tessier?
Parce que j'ai quatre semaines de plus qu'il y a un mois.
Ah ouais, ouais. Ben ouais, non? C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on va te l'accorder. Mais non, c'est parce que c'est quatre fois mieux qu'une seule fois. Bonjour, voyons. Alors, à l'émission aujourd'hui, on a une émission assez intéressante. On va parler du gala Émergence qui a remis ses prix, dont le prix Laura McKitchen, à la directrice sportive de l'équipe de soccer Les Roses de Montréal, Marinette Pichon. Beaucoup de Français à l'émission aujourd'hui. Hein? Je vais vous revenir tantôt avec ça. Je vous taquine tout le monde parce que j'ai avec moi aussi, évidemment, Louis de Bernis, à qui qu'on va saluer bientôt. L'autrice Virginie Chaloux-Gendron va nous parler du récit de son roman « Tout cela m'appartient » chez Boréal, qui parle de violence dans les relations de couple. Et on va aussi parler de la pièce de théâtre « Flambant nu ». Mais on va rester habillé pour en parler avec Pierre-Michel Tremblay. On entend un beau petit respire de notre très cher Daniel Rioux au bout du fil. Comment vas-tu, Daniel?
Je vais très bien, merci. On a eu un dimanche extraordinaire. L'été se poursuit, hein?
Ben oui, c'était aussi chaud hier et cette nuit que des journées de la mi-août. Hein? On disait qu'il a fait autour de 15 degrés à Montréal cette nuit. Alors, oui, vous avez eu chaud dans votre lit, c'était peut-être pour ça, Louis de Bernis?
Oui, ben oui, on a sorti surtout les couvertures de flanelle, là, les draps de flanelle.
En tout cas, fallait être flambant nu en dessous. Bon, écoute, je suis en train de me faire perdre des secondes très importantes en train de rigoler. Alors, Daniel, on parle de quoi aujourd'hui à ta chronique?
Bien, écoutez, un sujet qui, je pense, qui va intéresser, vous savez, on est attiré par les histoires des autres.
Oui.
Alors, je vous parle de... quand on lit des livres, on aime les biographies, mais là, je vous parle de cinéma, les biopics, c'est-à-dire les biographies filmées, ça fait vraiment un tabac. Les gens adorent ça.
Ouais, OK, on va en parler. Je vais écouter ça. Louis de Bernis à la chronique des nouvelles insolites aujourd'hui.
Oui, bonjour Denis Martin. On ira au Japon d'abord, à Kyoto. Kyoto qui pense ses végétaux, pas du verbe penser, réfléchir, mais du verbe poser des pansements parce qu'ils sont abîmés par les touristes. C'est un problème pour eux, j'en parlerai. Et puis on parlera aussi de Tesla. J'ai appris une chose que j'ignorais totalement. C'est aux États-Unis, un homme qui a acheté une Tesla s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la recharger sur le réseau de recharge rapide, ce qui peut aider quand on a une voiture électrique. Et il y a une raison bien particulière à ça, je vous l'expliquerai.
Ah, c'est à cause d'Elon Musk.
Sûrement.
C'est le plus grand des voleurs.
Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est Arsène Lupin qui a fait ça, mais il y a eu tout un cambriolage au musée du Louvre hier. On dit que c'est une scène digne d'un film au cœur de Paris. Cambriolage, les voleurs se sont introduits dans l'établissement. Ils ont dérobé 8 bijoux royaux. Et l'opération a été menée par 4 individus. C'était d'une rapidité déconcertante. Les malfaiteurs ont utilisé un simple camion à nacelle pour atteindre des découpages. Excusez-moi, ça me fait rire. Les vitres d'une salle d'exposition. Ça n'a duré que 7 minutes. Et donc, on parle de bijoux volés. Qui auraient appartenu aux dernières têtes couronnées. Je ne sais pas si elles ont été coupées aussi. Des impératrices Marie-Louise et Eugénie. Je ne sais pas ce qui me prend ce matin de rire de choses aussi tragiques que ça. Et le président Emmanuel Macron a promis de tout mettre en œuvre pour retrouver les trésors et traduire les auteurs en justice. Mais quand même, le Louvre, Louis de Bernis, c'est dans votre coin du monde, ça?
Oui, c'est impressionnant. Et ils ont dû faire tomber une couronne parce qu'elle a été retrouvée quelques mètres plus loin, un peu abîmée. Donc, ils devaient vraiment être très pressés. Mais oui, c'est fou de se dire qu'avec le nombre de visiteurs qu'il y avait, la sécurité, les caméras, ils ont quand même réussi en quelques minutes à dérober
quelque chose,
millions d'euros parce que ça représente des sommes astronomiques.
Mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont vendre ça. Daniel, tu vois, t'as vu la nouvelle?
Oui, j'ai vu la nouvelle. Ben, j'ai entendu ça hier, puis j'ai dit, mais mon Dieu! Quand on pense à le Louvre, hein, on est étonné encore plus. Puis quand on pense à des bijoux royaux, on se dit, oh, ça doit être de toute beauté. Puis là, j'ai lu ce matin, c'est le camion nacelle. En 7 minutes, il faut le faire. Faut vraiment le faire. Et puis, voyez-vous, je suis pas surprise, dans un sens, c'est le grand luxe. Hein? Mais j'étais surprise de voir qu'ils ont échappé une couronne, quand même, il faut le faire.
Bon, de toute façon, je ne sais pas comment ce qu'ils vont faire pour vendre ça, mais on craint qu'ils prennent les bijoux et qu'ils les réduisent en pièces pour vendre justement les pierres et tout ça.
Oui.
Rapidement, vous savez qu'on est à 66 jours du réveillon de Noël. Mm-hmm. Et ce matin, on apprend dans Le Devoir que les Québécois se montrent plus prudents que le reste du Canada. Alors, on prévoit, selon un sondage du Conseil canadien du commerce du détail, les Québécois dépenseraient 620 $ en moyenne là, cette année en cadeaux. C'est 200 $ de moins que la moyenne canadienne. Et c'est un recul de 20 % par rapport à l'an dernier. Alors, je ne sais pas, on est en train de devenir pingre ou grinch?
Ben 620 $ en moyenne pour des cadeaux, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je pense que je dois être pingre.
Ben moi aussi, je pense dans cette catégorie-là.
Il y en a qui sont allés magasiner au Louvre, je pense.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça que j'ai commandé sur Amazon. D'ailleurs, il y a des problèmes avec Amazon aujourd'hui, mais bon, je commande plus là-dessus.
Vous n'aurez pas votre couronne cette année, Denis Martin.
Ben là, avec la grève des postes, ça va être compliqué aussi, Louis de Pernis. Vous allez dépenser de l'argent, Louis, cette année?
Ben moi, chaque année, je me pose la question, est-ce que je dois compter le billet d'avion aussi? Est-ce que ma présence est un cadeau ou pas? Peut-être pas, mais
ah,
oui.
Parce moi, que je vais à Québec dans ma famille, c'est quand même un billet de train. Ma présence est un cadeau.
Voilà.
Ouais, je pense que oui. Moi, j'ai des enfants, donc je donne des cadeaux. Je découvre des fois des petites choses au cours de l'année, je les achète. Mais autrement, c'est ma présence, c'est le fait d'être assis autour de la table ensemble et d'avoir du plaisir.
Ben, vous êtes tous et toutes des cadeaux pour moi aujourd'hui dans cette journée où il va pleuvoir, mais qui reste quand même chaude.
Va falloir que tu me tiennes fort. Des fois je perds le nord. Mais fais-moi confiance, je follow le tempo, peu importe la cadence. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Qu'on se dépose. Puis si jamais je me souffre, rappelle-toi que mon cœur est un Rolling Stone. Je vais revenir te voir. Dis-toi que tôt ou tard, nos deux cœurs vont vouloir se revoir. Hold me close, même si le monde explose. Moi je peux durer une chose. I will hold you close. Hold me close.
Roxane Bruno, hold me close.
C'est le temps de faire un tour des actualités aujourd'hui. Dans la presse plus ce matin, impasse totale dans les négociations entre Québec et les médecins spécialistes. Devant ce qu'elle qualifie de cul-de-sac, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, la FMSQ, a interpellé directement le premier ministre François Legault dans une lettre demandant son intervention personnelle. Le président de la FMSQ, le Dr Vincent Oliva, y affirme que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a perdu la confiance des spécialistes allant jusqu'à qualifier de fronde le projet de loi 106 sur la rémunération. Toutefois, François Legault a répondu hier en invitant la FMSQ à retourner négocier selon les paramètres actuels. Il maintient le cap sur une réforme essentielle, selon lui, pour assurer l'accès aux soins. Pendant ce temps, le boycottage des stages d'externat se poursuit, menaçant la diplomation de peu près un millier de personnes étudiantes en médecine. Dans le Journal de Montréal ce matin, c'est une facture de 2,6 millions de dollars que les contribuables canadiens ont financé en 9 ans uniquement pour des voyages de conjoints et conjointes de sénateurs. Une enquête révèle que plus de la moitié des sénateurs profitent de cette pratique légale, mais qualifiée d'abusive et d'archaïque par certains de leurs collègues. Les dépenses en vol de première classe ou en hôtel peuvent même coûter plus cher que les voyages du sénateur lui-même. Devant le tollé, le Sénat fédéral a confirmé qu'il allait procéder à une analyse du programme, laissant entendre que les règles sur ces privilèges pourraient être resserrées. Toujours dans le Journal de Montréal, 30 ans après le référendum de 1995, la souveraineté n'est pas une priorité pour les Québécois. C'est ce que révèle un nouveau sondage léger, le Journal de Montréal. Si un référendum avait lieu cet automne, le camp du non obtiendrait une nette victoire avec 65 % des appuis contre seulement 35 pour le oui. Selon le sondeur Jean-Marc Léger, l'actuelle popularité du Parti québécois est d'abord un vote anti-CAQ, les préoccupations des électeurs étant l'économie, le logement et l'épicerie et non le débat constitutionnel. Seulement un Québécois sur quatre souhaite la tenue d'un troisième référendum d'ici 2030, comme le promet le Parti québécois. L'unique bonne nouvelle pour les souverainistes est une légère montée des appuis chez les jeunes de 18 à 34 ans, autour de 38 % bien que c'était 48 dans un sondage plus tôt cette année. Et puis, dans les paractualités, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, est une cause majeure de perte de vision chez les personnes de 50 ans et plus. Cette maladie affecte la rétine et en particulier la vision centrale essentielle à la lecture ou à la reconnaissance des visages. Bien que la DMLA soit liée au vieillissement, plusieurs facteurs de risque sont évitables, comme le tabagisme et l'hypertension. De plus, l'exposition aux rayons du soleil est un facteur aggravant. L'élément crucial est le dépistage. Au premier stade, la DMLA ne présente souvent aucun symptôme, donc un examen de la vue régulier est essentiel pour un diagnostic précoce. En cas de détection rapide, les professionnels de la vue peuvent évaluer les options pour ralentir la progression de maladie. C'est donc dans le magazine L'Action du 19 octobre. Et dans Le Soleil du 18 octobre, nouvelle intéressante en fait, le tabou entourant l'amour et la sexualité des personnes vivant avec une déficience intellectuelle est au cœur d'un nouveau projet de recherche. David Gélina, citoyen partenaire, brise le silence en racontant son histoire d'homme homosexuel ayant une déficience intellectuelle. À 46 ans, David exprime son désir de raconter l'amour et d'avoir une vie affective. Ce témoignage vise à sensibiliser le milieu. La professeure Élise Milot, responsable du projet Diversité, souligne que ces personnes sont souvent infantilisées et qu'on sous-estime leur capacité à faire des choix. Elle insiste, restreindre leur sexualité ne la supprime pas, mais peut la rendre moins sécuritaire. Les chercheurs et les familles rappellent l'importance d'outiller ces personnes pour qu'elles puissent exercer leur droit de choisir un partenaire en toute sécurité.
Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Mon cœur a mal quand il est loin, mon âme pleure. Je t'ai pas rencontré plus tôt. C'est comme ça qu'il faut s'occuper de moi. Tu leur as mis quelle vitesse. Cette émotion en moi est vitale. Femme alpha, alpha, oméga. Dans la vie, je fais d'étale. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Elle me rend petite, avec lui je suis d'humeur pas taquine. J'ai capté que j'étais piqué quand je maîtrisais pas du tout mes émotions. Non. Ce moment c'est trop méchant, oh my god, dépassé par toutes mes émotions. Y'a comme un souci, je suis sa bombe à son bord. Il sauterait pour moi dans tous les cas. Il aime ma poussière, à tout moment je peux sauter. L'endroit c'est pas du tout son souci. Mon chéri, viens me déguster. J'ai la bouche bien, bien déguisée. Sa tête que j'ai la vision. Et vas-y, viens, viens, viens déguster. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi ça coule de source. Mais tu l'as ressenti, c'est ça. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Il me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. Elle me rend petite, avec lui je suis unique.
Avec lui, je suis du métal, taquine.
La chanson « Désarmée » de Aya Nakamura.
Oui, elle nous désarme, cette Aya Nakamura. Mais nous, on va se faire désarmer par Daniel Rioux, qui va nous parler des biopics, ces fameux films biographique. En tout cas, je vais te laisser expliquer, Daniel.
Oui, 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 absolument. Mais écoutez, des fameux films biographiques, des biographies filmées, on appelle ça des biopics. Et puis, j'ai des photos devant moi. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'on pense, là. C'est sûr qu'on retient ceux qui sont les plus récents. Donc, c'est dans le magazine Ça m'intéresse de mai dernier que cet article est paru. C'est une grande tendance, ces biopics-là. Donc, couverture de magazine, Internet, télé, la presse People, les potins. En ce début 2025, tel écrit dans l'article, il n'y en a eu que pour lui. Ben, on devine qui. Je vous le dis tout de suite. C'est Timothée Chalamet. Et c'est la nouvelle star d'Hollywood qui s'est glissée le temps d'un film dans le titre français Un parfait inconnu dans la peau de Bob Dylan. Mm. Oui, Chalamet n'est pas le premier acteur à incarner un chanteur, mais le battage médiatique autour de sa prestation en dit long sur l'importance qu'ont prise justement les biopics dans l'industrie du cinéma, et en plus que Bob Dylan était un monsieur assez secret. Le genre de la biographie filmée, donc biographie picture ouais, est aussi vieux que le 7e art, parce que en 1899, Georges Méliès réalisait un Cléopâtre, et il y a le Napoléon d'Abel Gance en 1927, et c'est un classique du cinéma français. Longtemps, le biopic a été un exercice académique un peu ennuyeux. Les deux, je les ai vus, mais surtout Napoléon, dont je me souviens, c'était ennuyeux. Hein, c'est à l'époque du film muet, donc c'était particulier. Mais on retient un qui nous a fait vraiment soulevé, je me rappelle, et vous aussi sûrement, là, Mathieu, Louis et Denis Martin, Amadeus en 1984, oui, de Milos Forman, ouais, qui a suscité beaucoup l'enthousiasme.
Je me permets de t'interrompre, mais là, on parle d'un film où on a fait une interprétation d'Amadeus, ouais, Mozart, et non, ouais, pas, on n'a pas tenté de lui ressembler, de faire exactement comme lui, alors qu'il y a des films que, oui, je vois, que, je préfère de ne pas les nommer, mais je suis habituellement allergique aux biopics. J'aime les films biographiques. Il y a une différence, oui, entre les deux.
Ben justement, c'est justement, puis en même temps, ben on va attirer du monde, si ça peut cultiver certaines gens, de les connaître ou peut-être faire des recherches après. Mais c'est ça, on a eu Milos Forman avec Amadeus.
C'est un chef-d'œuvre, ce film.
Ah oui, ça, oui, c'était très bien. Puis je me rappelle aussi qu'il y a peu de temps après, ou peu de temps avant, il y avait la sortie du film, ça faisait très changement, le film en 82 de Gandhi, de Richard Attenborough, mm-hmm, avec Ben Kingsley, mais ça, c'était un peu un film qui était long, qui durait 3 heures. Donc ça, c'était un peu plus pénible, et heureusement, par la suite, il y a eu Amadeus qui était rafraîchissant. Mais depuis 20 ans, justement, le genre biopic est en plein boom, avec une nette accélération ces dernières années, parce qu'en 2024, on a vu pas moins de 14 longs métrages sortir en salle, évoquant des destins aussi variés que ceux de Niki de Saint-Phalle. Tout récemment, il y avait Charles Aznavour, Monsieur Aznavour, Priscilla Presley, le film Priscilla, Bob Marley, One Love. Il y a aussi Donald Trump, The Apprentice, et la photographe Lee Miller, ou Amy Winehouse, Back to Black. Mm-hmm. Et la tendance semble pas s'essouffler, ce que mentionne l'article. Pour le public, des histoires humaines, ben c'est fort. C'est parce que c'est des personnalités qui sont souvent hors normes, des destins extraordinaires. L'intérêt ne faiblit pas pour ces parcours accidentés au schéma immuable. On devine un peu la galère, l'ascension, la gloire, la chute, la rédemption. Et selon, il y a des fois, il y a des fins tragiques. On pense à Marilyn Monroe. Les triomphes fait Harry en 2004 ou à la Môme en 2007, mm-hmm, avec Marion Cotillard, ont ouvert les vannes, et on a sorti récemment en février dernier, en 2025, Maria, qui raconte avec force flashback la fin de la vie d'une Maria Callas, et avec 100 voix jouées par Angelina Jolie. On sait qu'elle a tellement été amoureuse d'Aristote Anazé, elle a vraiment eu une énorme peine d'amour. Il y a Tahar Rahim, alias Charles Aznavour, qui incarne un artiste confronté à l'adversité. Tout d'abord, oui, Charles Aznavour méprisé pour sa voix.
Ouais, et c'était, ça, par contre, c'est, tu vois, c'est un bon film parce qu'on a une interprétation de Charles Aznavour et une prise de position. Et ce n'est pas un film complaisant, loin de là. Moi, j'ai trouvé que Charles Aznavour, on l'a vu tel qu'il était.
Voilà, parce que c'est un monsieur qui avait comme rien pour lui, méprisé pour sa voix, conspué pour son
physique. Pas toujours gentil non plus.
Et il ne devra sa carrière qu'à sa ténacité et une foi inébranlable en son talent. Et Dieu sait qu'il a un talent. Mm-hmm. Il y a la réussite en affaires aussi qui est également une bonne matière dramatique. En 2010, The Social Network, qui narrait la création de Facebook par Mark Zuckerberg, a été un succès mondial. Et aussi, on rejoint dans les biopics le facteur nostalgique. On a juste à penser à des... on n'a peut-être pas jamais assisté à un défilé de mode, ben, un film sur Yves Saint-Laurent ou encore un concert d'Elvis Presley. Donc, il y a Coco Chanel, joué par Audrey Tautou à certains moments. Le biopic, lui, permet de vivre par procuration des moments historiques. C'est le cocon d'un passé idéalisé, une carte postale temporelle très travaillée, la reconstitution maniaque du Greenwich Village des années 60 dans Un parfait inconnu, le film sur Bob Dylan, qui était vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, en cette période anxiogène, revisiter les 30 glorieuses a quelque chose de rassurant. Est-ce que vous avez vu un jour Queen sur scène? Non. Ben, Bohemian Rhapsody vous offre la place. Il faut tourner en costume, effacer les éléments contemporains dans le décor, que tout soit cohérent. Le public ne s'y laisse pas tromper. Et puis, ça coûte cher, souligne Thierry Desmichel, qui est directeur d'une importante société de production.
Puis encore une fois, moi, j'aurais toujours sur le problème que beaucoup de ces films-là sont trop complaisants. Tu viens de mentionner le Bohemian Rhapsody. Moi, c'est un film que j'ai trouvé hallucinant parce que, mon Dieu, l'homosexualité du personnage, excuse-moi, le nom m'échappe tout à coup, là, était comme esquivé, hein, on en parlait du bout des lèvres alors que c'était central à sa vie. Moi, je trouve que ce genre de film-là, parfois, devient trop complaisant et aussi, tu sais, c'est fait à l'américaine.
Oui, c'est sûr. Puis on avait beaucoup mis l'accent sur l'amour qu'il avait pour sa copine Mary aussi, hein, si je me souviens bien, là. Donc, mais il y avait aussi le film...
Oui, je cherchais le nom, c'est Freddie Mercury. Oui, Freddie Mercury, on cherchait le nom tout à l'heure, oui.
Oui, Freddie Mercury, puis Rocketman, il y avait Elton John, hein, lui, le film qui est paru, je pense, après, je me souviens plus. Il y a voir aussi l'effet du trou de serrure, c'est voir Brigitte Bardot à moitié nue dans les bras de Serge Gainsbourg. C'est beaucoup en ont rêvé d'être dans les bras de Brigitte Bardot, peut-être pas de Serge Gainsbourg. Joanne Sfar a mis le fantasme en image en Gainsbourg en 2010. Les biopics nous font partager l'intimité des grands de ce monde. On a pensé au Napoléon de Ridley Scott en 2023, qui évoque sa relation amoureuse avec Joséphine. C'est aussi pour les réalisateurs l'opportunité de mettre le génie en scène. Assister à la création de Respect par Aretha Franklin a quelque chose de fascinant, même si on sait que c'est du cinéma. Cependant, il y a la réalité qui est souvent édulcorée, justement. Les dérapages d'Yves Saint-Laurent ou de Freddie Mercury étaient bien plus extrêmes que ce que leur biopic nous en montre. Ouais. Si vous faites un truc trop radical, vous limitez le nombre d'entrées, c'est ce que mentionne Thierry Desmichel. Il ne faut pas non plus oublier que les ayants droit veillent au grain de ces films-là quand ils ne dictent pas le scénario, les héritiers. C'est ainsi que l'on se retrouve avec un Bob Marley qui semble sorti d'une pub pour dentifrice et dont la consommation industrielle de marijuana est à peine montrée. Ou encore le géniteur toxique d'Amy Winehouse qui est dépeint dans Amy, le documentaire qui est consacré à la chanteuse, devient un père aimant et protecteur dans Back to Black. Pour les producteurs, c'est des risques réduits aussi. C'est raconter une histoire déjà connue, rassure les producteurs peu réputés pour leur audace. La multiplication de biopics pointés pour leur fadeur témoigne de cette réticence à prendre des risques, même si ce n'est pas une règle absolue. Confier 100 millions de dollars à Christopher Nolan pour raconter la vie d'Oppenheimer montre que le cinéma ambitieux a encore sa place. Et ça paye aussi, parce que le film a rapporté presque 1 milliard au box-office. Mm-hmm. Et quant à représenter la pop star Robbie Williams sous les traits d'un chimpanzé dans Better Man, il fallait oser. dit. Il n'en reste pas moins que, comme le résume Thierry Desmichel, une personnalité connue, c'est une marque. Vous avez moins besoin d'expliquer le film, et De Gaulle, c'est de la notoriété spontanée. Mmh. Sans compter les biopics musicaux font le bonheur des maisons de disques aussi, des musiciens ou de leurs héritiers. Hein, quand on a la vie tumultueuse d'une rockstar comme Elton John, ben écoutez, qui s'est porté à l'écran, la bande originale, les rééditions d'albums, les best-of se vendent très bien et les tubes remontent sur les plateformes de streaming. Aussi, c'est une occasion pour certains acteurs de briller. Hein, on pense à Jamie Foxx dans le film Ray. Ray Charles, ou Marion Cotillard avec Édith Piaf, Joaquin Phoenix avec Johnny Cash, Val Kilmer et Jim Morrison, Ben Kingsley et Gandhi. Quelle que soit la qualité du film, la performance est souvent soulignée et récompensée. Vous remarquez, certains reçoivent des Oscars. En 20 ans, 7 actrices et 12 acteurs ont remporté un Oscar pour leur incarnation d'un personnage célèbre, certains étant des comédiens déjà consacrés, tels Meryl Streep, recevant la statuette en 2012 pour La Dame de Fer, film sur Margaret Thatcher. Incarner sans singer, c'est le défi imposé aux acteurs qui s'immergent parfois des années durant dans la préparation. C'est bien Timothée Chalamet qui, après avoir pris des cours, joue de la guitare comme Dylan, plutôt, et Angelina Jolie qui chante les airs de la Callas, mais a été aidée par la technologie. Il faut l'avouer. Pendant un an, j'ai tout arrêté, raconta Elsa Ziberstein, qui campe une impressionnante Simone Veil dans Simone, le voyage du siècle. Alors, comme elle dit, elle a tout lu. Alors, écoutez, elle respirait comme elle quasiment, et la promotion met souvent l'accent sur ses performances et les transformations physiques qui accompagnent avec des résultats mitigés des fois. On pense à la métamorphose de Robert De Niro en Jack LaMotta dans Raging Bull de Martin Scorsese en 80, qui a marqué l'histoire du cinéma. Les critiques ont descendu en flammes le jeu mimétique de Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour. Pas le public qui s'est pressé dans les salles, le biopic semble avoir encore de beaux jours devant lui.
Wow, ouais. Ben, remarque, moi j'ai vu Aznavour, remarque, c'est un film correct, mais ce que j'ai aimé, c'est que ce n'était pas un film complaisant.
Ben...
Et ce qui prouve en fait ce que je disais, pourquoi je n'aime pas ce genre de film-là, ce sont des entreprises pour faire de l'argent et non pas de l'art. Et ça, c'est le problème du cinéma hollywoodien. C'est souvent l'argent au bout du compte et non pas l'art qui compte là-dedans.
Puis moi, j'ai lorgné un peu du côté des biopics aussi, parlant de pour nous faire connaître des personnages aussi. Au Québec, Ma vie en cinémascope, c'est l'histoire d'Alice Roby.
Oui.
Hein? On a eu Maurice Richard, La Bolduc, on pense à Louis Cyr et plus récemment, une personne qui était plus récente dans nos vies, Dédé à travers les brumes.
Oui.
Il faut penser qu'il y a des biopics américains, mais il y a des biopics ailleurs.
Oui, ailleurs aussi, dont cette fameuse Aline qui a été un flop monumental, mais ça, on pourra y revenir. On doit arrêter ici. Daniel Rioux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'on est quand même une journée semi-été, semi-automne. Il va pleuvoir aujourd'hui dans la plupart des régions que nous desservons. Après la pause, donc, on revient avec Louis de Bernis.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Je me suis couché à côté de toi pour t'endormir, te raconter la vision que j'ai. Notre voiture aura un toit ouvrant sur les étoiles et la croissante de lune sur le capot. Nous partirons de nuit, ce sera pour la vie. Tu me demanderas si ça de la fleur de peau. Nous partirons de nuit, peut-être vendredi, mais ça c'est pas certain, tout dépend de ta libido. Le soleil s'est levé sur Cap-Pelé. J'ai déroulé la couverture à tes pieds.
te voir danser encore parce que je t'aime. Je veux la voir danser encore, ta silhouette. Nous partirons de nuit, ce sera pour la vie. Tu me demanderas, c'est ça de la fleur de peau. Nous partirons de nuit, peut-être un vendredi, mais ça c'est pas certain, tout dépend de ta libido. Le soleil s'est levé sur Cap. Plage à Boiteau, sur le sol de la plage à tu vas faire une exception. J'ai toujours aimé ça, toi les beaux garçons, mais pour moi tu vas faire une exception. Le soleil s'est levé sur Capelet. J'ai déposé un genou à tes pieds. Sur le sable de la plage à Boiteau, sur le sable de la plage à Boiteau.
Collaboration de Juste Robert, c'est son nom, et Ariane Roy pour la chanson Capelet.
Capelet, au Nouveau-Brunswick. Salut Louis de Bernice.
Bonjour Denis Martin.
Alors aujourd'hui, on va parler de touristes qui gravent sur les bambous.
Oui, qui abîment les lieux qu'ils visitent, et ça se passe au Japon, à Kyoto, la capitale de la paix, de la tranquillité. Eh bien, elle voit sa quiétude perturbée depuis quelques années, et ils en ont un peu marre. C'est dans la forêt d'Arashiyama, au nord du temple Tenryuji, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que des visiteurs s'en prennent régulièrement aux bambous qui bordent la promenade. Afin de laisser une trace de leur passage, ils gravent des messages sur les végétaux, une pratique ô combien répandue dans les lieux touristiques du monde.
Du genre « Louis was here ».
Par exemple, ou des initiales, si vous avez quelqu'un avec qui vous visitez le temple. Ouais. Oui, beaucoup d'inscriptions en tout genre. Et on le voit partout dans le monde. Hein. On pense par exemple aussi à Barcelone. Malheureusement, les cactus du parc Güell en ont fait les frais aussi. Au jardin botanique de Madère. Enfin voilà, les exemples sont très nombreux. En 2023, il y avait même un homme qui avait été jusqu'à graver ses initiales sur un mur du Colisée à Rome. Donc pas seulement les végétaux, mais parfois les pierres aussi sont victimes de gravures. La ville de Kyoto, en tout cas, estime qu'environ 350 tiges ont été dégradées. Elle note également une surreprésentation de lettres romaines, qui ne sont pas les lettres japonaises, ce qui laisse penser que les auteurs des graffitis sont surtout des touristes étrangers. En 2018, déjà, les moines du temple et de la communauté locale avaient alerté sur le problème qui s'était calmé, bizarre, pendant la crise sanitaire, plus de bambous gravés. Les dégâts ont été causés avec la hausse du nombre de touristes après la pandémie, déclarent auprès du journal les responsables de la collectivité confrontés à ce surtourisme. Pour contrer cette pratique et redonner à la forêt sa beauté naturelle, elle a fait poser des rubans adhésifs verts par-dessus les textes gravés. Les bambous sont donc pansés comme s'ils avaient des plaies, et ce sont de vraies plaies. Parce que au-delà de l'impact esthétique, la gravure des bambous a, on l'imagine, un impact sur la santé des végétaux. Hein. Les autorités avertissent que des gravures profondes peuvent tuer la plante, tout simplement, provoquer la chute du bambou. Elles envisagent désormais de couper les tiges les plus gravement endommagées et exhortent les touristes à adopter un comportement responsable, a écrit par exemple l'Asahi Shimbun, qui donne également la parole à Keisuke Ishiwa, représentant des commerçants locaux. Nous espérons que les visiteurs graveront à partir de maintenant leur souvenir d'Arashiyama dans leur cœur et non dans le bambou. Et donc voilà, si vous visitez, c'est une très jolie forêt de bambou, beaucoup de gens prennent des photos, et bien les photos des prochaines semaines, on pourra voir des petits rubans adhésifs verts qui seront là pour nous rappeler que quand on visite, on doit respecter les lieux.
Ah, mon Dieu. Bon, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête présentement. L'indignation est en train de me chauffer les neurones. Mais on va passer à autre chose. Tiens, parlant de chauffage, on va parler de recharge et de la Tesla.
Oui, Tesla. J'ai appris une chose à propos de la Tesla. Ça s'est passé donc aux États-Unis. Un nouveau propriétaire d'une Tesla a découvert qu'il ne pouvait pas utiliser le réseau de superchargeurs de la marque. C'est quand même un problème quand on a une aussi grosse batterie à recharger. Les États-Unis disposent du plus grand réseau de superchargeurs Tesla au monde, hein, plus de 70 000 bornes à travers le pays. Et c'est ce qui a poussé ce monsieur, qui a un nom qui peut-être lui a fait passer une mauvaise enfance, mais Daniel Boycott. Il a dû avoir beaucoup de blagues, on l'imagine. En tout cas, ce monsieur a opté pour un modèle électrique en septembre dernier. Il habite l'Illinois. Il s'est offert une Tesla Model 3 d'occasion chez un concessionnaire. L'essai s'est très bien déroulé, il est reparti avec sa voiture, qui était apparemment en très bon état. Quelques jours plus tard, il s'est rendu à une borne Tesla de charge rapide pour faire le plein. C'est là qu'il a découvert que ça ne marchait pas. « J'ai essayé, dit-il, plusieurs stations, aucune ne fonctionnait malheureusement. » Il contacte alors Tesla, qui lui apprend que sa voiture n'est pas compatible avec la recharge rapide car il s'agit d'un véhicule accidenté. On m'avait dit qu'elle était en parfait état, j'y ai cru. En réalité, le rapport d'historique du véhicule mentionne bien un accident. Les photos montraient peu de dégâts, mais les réparations n'auraient pas été effectuées. C'était suffisamment grave pour qu'il le signale, souffle-t-il. Et la raison derrière tout ça, c'est que Tesla interdit en effet l'accès à ses superchargeurs aux véhicules accidentés afin d'éviter tout risque de surchauffe ou d'incendie. Résultat, Daniel Boycott ne peut pas recharger sa voiture rapidement. C'est très frustrant, s'explique-t-il. Il ne peut donc pas effectuer de longs trajets. Il doit, pour que la batterie soit complètement rechargée, la mettre à charger pendant une nuit. Selon un spécialiste interrogé, Tesla propose d'inspecter le véhicule une fois réparé pour le réautoriser sur le réseau. Mais bon, tout ça a un coût, comme on l'imagine. On parle ici de 2 000 $ américains d'abord pour l'inspection et les réparations de 8 000 $ américains. Ça fait donc une coquette somme à ajouter à celle qu'il a fallu débourser pour acheter le véhicule. Des négociations sont en cours, mais voilà, cette affaire révèle une information que peut-être peu de gens connaissent, à savoir si jamais il y a eu un accident, et pas forcément un gros accident, mais un choc sur la voiture, celle-ci n'est plus autorisée à utiliser le réseau de superchargeurs, et il faut donc prendre son mal en patience.
Ah, oh, raison de plus de ne pas aimer, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ce cher Elon? Ah là 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 là.
Et de se déplacer en vélo.
Ouais, c'est une bonne chose, ça aussi. Ça se recharge tout seul. Mais ça aussi, ça se recharge la nuit. Merci beaucoup, Louis.
Quand la machine m'emporte vers les paysages, il vient et m'apporte des larmes de passage. Quand la solitude vient me rendre visite, j'ai pris l'habitude alors de l'inviter. Il vient chanter pour moi, me fait pleurer parfois. Souvent, même si je n'étais pas là pour ça, il me fait pleurer ma foi. Si j'y retourne, c'est que j'aime ça, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer dans sa voix, pleurer.
Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I am very proud of the person you become. Where I am weak, oh, you seem strong. See into your soul when I listen to your songs. I shut my eyes and I hear you sing. I feel a storm underneath my wing. And I know we'll be friends until the bitter end. And I know we'll be friends until the bitter end.
Tom O'Dell et Zao de Sagazan pour la chanson Old Friend.
Et on reconnaît le style hein, de Zao de Sagazan. Juste la musique, on sait que c'est elle. C'est toujours très. Une belle petite musique, belle petite mélodie. Vendredi 17 octobre dernier, c'était donc la Fondation Émergence qui soulignait son 25e anniversaire lors de son événement phare qu'on appelle le Gala Émergence, donc la remise aussi de prix à l'occasion de ce gala. Depuis l'an 2000, la Fondation Émergence œuvre activement pour la sensibilisation et la défense des droits des personnes de LGBTQIA+ au Québec et à l'international. Je vous rappelais peut-être certaines des campagnes parfois controversées hein, de la Fondation. Il y avait celle où on voyait un bébé dans un berceau d'hôpital et il y avait une étiquette attachée au pied qui contenait l'inscription « homosexuel » ou encore cette autre campagne où on voyait deux joueurs de hockey s'embrasser. Et ça avait souligné un tollé. Ces campagnes, on les voit partout au Québec, au Canada, dans plusieurs langues, même à l'étranger, dans plusieurs pays du monde pendant longtemps. Donc, le 17 mai, les campagnes de la Fondation Émergence. Alors, cette édition spéciale du gala pour le 25e anniversaire, pardon, avait pour terme, de l'ombre à la lumière. Un appel puissant avec cette montée de l'extrême droite ici dans le monde qui cherche à retirer les acquis des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Cette même extrême droite qui légitimise la haine et parfois même la violence envers les communautés. Certains même l'encouragent. On a juste à voir ce qui se passe au sud de la frontière et parfois dans certaines régions du pays ici où on voit que les choses ne vont pas aussi bien qu'avant. Alors, plus que jamais, l'appui des alliés est clé dans ce combat. Le gala était l'occasion de mettre en lumière donc des parcours extraordinaires. Et on va commencer par ce prix qui s'appelle le prix Laurent McKitchen. C'est un prix en l'honneur du fondateur de la Fondation Émergence, militant aussi des droits des personnes queer, qui nous a quittés en 2019. Et ce prix, cette année, qui a été remis par le passé à des alliés ou des membres de la communauté, dont Justin Trudeau, entre autres, Danny Turcotte, des grands acteurs, des actrices. Alors, cette fois-ci, ça a été remis à une sportive, Marinette Pichon, joueuse de soccer professionnelle, lesbienne et militante de longue date. Elle est présentement la directrice sportive des Roses de Montréal et elle-même, hein, c'est une ancienne gloire du soccer français. Alors, figure médiatique et pionnière du soccer féminin, elle incarne la résilience et la visibilité. Elle devient sans conteste donc un modèle pour des générations d'athlètes de LGBTQIA+. Voici donc un extrait de l'entretien que j'ai eu avec elle vendredi.
Ben, je l'accueille avec beaucoup d'humilité et d'honneur. C'est vrai que On ne fait pas les choses pour recevoir des prix, on les fait parce qu'on a la sensation que c'est bon pour la société, bon pour soi et bon pour ses convictions. Donc d'être là ce soir et de recevoir ce prix, c'est quelque chose d'exceptionnel et de valorisant. Et puis ça me donne encore plus de foi à continuer d'être moi, d'être ouais. cette femme naturelle qui porte un peu sa parole haut et fort. Donc non, je suis heureuse.
Marinette, il faut... Bon, on va se permettre de le dire, vous avez choisi de venir au Québec. Et racontez-nous un peu comment c'est arrivé, tout ça.
L'anecdote, c'est assez sympa parce qu'on était au mois de février en France et on se demandait ce qu'on allait faire de nos projets professionnels avec ma compagne Ingrid. Et l'idée derrière ça, c'était de se dire, on a envie de vivre une aventure humaine, on a envie de découvrir une autre culture. Et on a regardé là où le développement du soccer féminin était le plus probant. Et c'est tombé sur le Québec et le Canada. Donc, j'ai appliqué à des emplois. Pour la première fois de ma vie, j'ai appliqué à un emploi. Et puis, j'ai été rappelée le jour même, quelques heures après, par le directeur général. Et de fil en aiguille, on a vu que j'étais intéressée par le projet, que j'avais envie de bouger. Et puis, on est venu en visiteur pérage au mois de mars 2019. Et on a fait les valises le 19 juillet. Le 15 juillet 2019.
Il faut dire que vous aviez fait votre coming out ouais. en France. Ouais. Ça n'a pas été tout à fait génial, si je comprends bien.
Ben, ça n'a pas été génial et ça n'a pas été mal non plus, parce que comme j'étais une personne publique, entre guillemets, je n'ai pas souffert de discrimination, de gens mal intentionnés. Et j'ai pu servir de ma notoriété quelque part pour dire les choses. Mais c'était une question d'ailleurs, d'avoir envie d'aller ailleurs, de découvrir d'autres horizons, plutôt que la fuite comparée à, entre guillemets, à l'homophobie.
L'homophobie était quand même plus omniprésente à ce
Absolument.
Moment-là. Absolument. Bien qu'il y ait une
montée ici. C'est que 6 ans et demi en arrière. Hein?
Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut aussi mentionner que vous vous êtes sorti quand même d'une situation, d'une enfance difficile, et vous avez réussi? Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'en parler, de donner peut-être d'espoir à d'autres?
Oui, et puis moi, j'ai vécu des choses, mais il y a plein d'autres personnes qui ont vécu des choses difficiles aussi. Et puis j'aime dire que je ne veux pas toujours regarder mon nombril, parce que je pense qu'en effet, il y a des choses qui peuvent évoluer et on doit servir de modèle et d'exemple et puis essayer de partager ces expériences douloureuses. Mais je continue d'avancer, j'essaye de ne plus passer... De plus passer de temps sur ce qui s'est produit en amont, et j'avance, je positive, j'essaye de profiter de la vie. C'est pas tous les jours simple, hein, pour être honnête. Il y a des hauts, il y a des bas, comme pour tout le monde. Mais maintenant, je suis passée par là, et puis si je peux partager cette expérience, je la partage. Mais je partage aussi l'expérience que j'ai emmagasinée depuis que j'ai quitté le foyer familial aussi.
Je vais terminer là-dessus. Des exemples de femmes de la diversité sexuelle ou de genre, il n'y en a pas beaucoup encore pour les jeunes personnes qui s'identifient femmes. Vous avez un message pour elles?
De rester soi-même, d'arrêter de vouloir plaire aux gens. C'est pas en voulant plaire aux gens qu'on se satisfait et qu'on satisfait le monde. Ce qui est important, c'est d'être soi-même, d'être naturel et de se dire... Tu sais quoi, moi je m'en fous de ce que pensent les gens. Moi je veux être heureuse et je veux être en phase avec ce que j'ai comme conviction et avec les gens qui m'aiment pour ce que je suis. À partir de là, la vie est simple.
Ah, puis je pense que j'en termine, c'est vraiment ma dernière, promis. Comment vous vivez ça, cette admiration que les gens ont pour vous au Québec?
Ben c'est, au départ, j'avais du mal à la recevoir cette admiration. Et puis aujourd'hui, je suis contente d'être un modèle parce que ça veut dire ce que je fais dans la vie est bien et puis fédère et inspire. Donc, tant que j'aurai cette générosité, je vais continuer à la partager, simplement.
Merci beaucoup.
Alors, c'était Marinette Pichon, joueuse de soccer professionnelle, qui est aussi maintenant directrice sportive des Roses de Montréal, qui a reçu le prix Laurent McKitchen de la Fondation Émergence. Il y avait d'autres prix qui ont été décernés ce vendredi dernier. Donc, le prix Jeannette Bertrand, à l'honneur de la grande dame des médias, qui a toujours été une alliée des communautés de la diversité sexuelle et de genre, Mme Bertrand, qui a fait avancer les mentalités, on dit qu'elle a déniaisé le Québec dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 et encore de nos jours, elle était donc dans la salle. Elle a eu 100 ans cette année quand même, hein? Et c'est elle qui a remis le prix portant donc son nom. Au chroniqueur, Boucard Diouf, humoriste aussi, Boucard Diouf, il est honoré pour son engagement en tant qu'allié. Par ses textes et ses prises de parole, Boucard Diouf contribue à déconstruire les préjugés et à favoriser l'inclusion des communautés LGBTQIA+ dans la société québécoise. Étant à l'extérieur du pays, M. Diouf a annoncé, a accepté son prix par une vidéo où il nous a fait un peu rigoler, comme d'habitude. Et puis un autre prix, c'est le prix Coup de cœur. Prix Coup de cœur du Gala Émergence, c'est pour une personne qui a fait quelque chose dans nos communautés, qui peut être une alliée ou une personne des communautés. Alors, ça a été remis à Marie-Claude Daou, qui est l'autrice et la pièce Fille de trans. Son œuvre est saluée pour son approche sensible et éducative, abordant la transition d'un parent avec une perspective unique et touchante. On écoute un extrait de cet entretien.
Bien, avec énormément d'humilité, puis en même temps énormément de fierté, je trouve que cette année, la Fondation a axé sa campagne sur les alliés. Puis ça me fait vraiment plaisir de sentir la reconnaissance du projet Filles de trans comme un allié qui fait du bien, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup de... C'est une grande, grande fierté pour moi.
Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de théâtre?
Filles de trans, c'est une pièce de théâtre qui va devenir un livre qui est en train d'être adapté au cinéma également. C'est une pièce dans laquelle je raconte comment j'ai vécu la transition de genre de ma papa, qui est une femme transgenre. Donc, ça permet aux gens d'entrer en contact avec l'expérience que ça peut représenter pour un proche de vivre la transition de quelqu'un qu'on aime, en fait, puis apprendre cette réalité-là.
En 2025, alors qu'on voit cette montée de la haine de l'extrême droite, comment ça s'inscrit là-dedans, ton projet?
Bien, j'ai envie de dire que Filles de trans, pour moi, c'est une volonté de mettre de la lumière sur les noirceurs qui font peur, en fait. On n'a pas beaucoup de pouvoir contre la haine autre que l'amour. Fait que Filles de trans, c'est mon cri d'amour à moi, pour la communauté.
Et ta papa, comment est-ce qu'elle prend ça?
Je pense qu'elle est fière. En fait, c'est évidemment un projet qui la touche de près parce que ça raconte notre histoire à nous deux. Mais elle voit les bienfaits que ça a sur les gens autour de nous, sur la communauté qui en profite, puis ça la rend très fière, je pense.
Ah, Marie-Claude, merci beaucoup.
Ça fait un grand plaisir. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Alors, l'artiste, comédienne, autrice Marie-Claude Daou, en fait, cette pièce de théâtre va être faite en film. On va voir ça bientôt. Enfin, pour le volet académique, c'est le projet Sa vie LGBTQ de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui se distingue. Projet de recherche qui a méthodiquement documenté les exclusions vécues par les personnes LGBTQ+, au Québec et au Canada, fournissant des outils précieux au milieu communautaire et public et politique publique. Nous avons pu nous entretenir avec Lynn Chamberlain, l'une des protagonistes du projet.
Ben, moi, j'étais très contente. D'abord, il faut dire que moi, je suis à la retraite depuis janvier 2021 et c'est Martin Blais qui a pris la relève. Et donc, c'est lui qui devrait recevoir le prix, mais il est en sabbatique et à l'étranger. Cela dit, c'était un trio. Au départ, c'était moi qui avais conçu le projet et Martin Blais et Isabelle Côté de LUCO étaient les co-directeurs, co-directrices, si on veut, du projet. En fin de compte, moi, j'ai dû quitter pour des raisons de santé. Martin Blais a pris la direction principale et Isabelle est demeurée aussi dans le projet. Alors, c'était une belle reconnaissance parce que c'est un gros projet, c'est un gros financement.
On parle de sa vie, là, oui.
On parle du projet Sa vie.
Qu'est-ce que c'est déjà?
C'est savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnes LGBTQ. On voulait rendre compte du fait qu'on a fait des progrès, donc il y a quand même de l'inclusion. Mais il y a encore de l'exclusion. L'inclusion n'est pas la même pour toutes les lettres et pas la même aussi selon l'appartenance d'être racisé ou pas, selon être un homme ou une femme, être une personne cis, une personne trans. Donc, c'est ça qu'on voulait explorer. Et c'est un projet qui a été monté avec les partenaires pendant plusieurs années. On a travaillé beaucoup sur la conception du projet, sur même le nom, hein, c'est venu comme ça. On trouvait que ça faisait un beau sigle, Sa vie LGBTQ. Et on avait donc un vaste réseau de partenaires et on a obtenu ce financement qui s'appelle un programme partenariat du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, c'est un gros financement. Ça, c'était vraiment une première, là, qu'il y ait un projet LGBTQ qui obtienne ce financement-là. Une première au Québec, une première au Canada aussi.
Et donc, ce savoir qu'on a maintenant est très utile. Moi, je sais que je vais souvent sur le site chercher de l'information.
Oui, et j'invite tout le monde à faire ça. on fait sa vie LGBTQ, puis ça apparaît assez rapidement. Et là, on trouve des articles, des références d'articles, on trouve aussi toutes sortes d'infographies qui sont des petits résumés assez accessibles sur un point particulier, par exemple des personnes bisexuelles, ou toutes sortes de sujets. Et on trouve, en fait, tous les balados, s'il y a une série de balados qui a été faite, 7 balados, donc on trouve tout ça sur le site. C'est un savoir qui a été diffusé de différentes manières, donc autant dans certaines revues internationales, je pense à la revue de l'Organisation internationale du travail, par exemple, sur la situation des personnes LGBT au travail, diffusée en 3 langues, français, anglais, espagnol, donc c'est intéressant,
ouais.
Que justement des infographies. On a aussi travaillé sur l'histoire du mouvement LGBT, donc ça c'est disponible sur le site Sa vie LGBT, mais aussi sur le site de la chaire, parce que c'est pas mis tout seul, ces avancées-là, c'est parce qu'il y a eu différentes batailles, et on voulait documenter ça, parce que moi, ça m'énervait un peu. Des fois, les gens ne prenaient pas les bonnes dates, ou
disaient n'importe quoi.
Alors, ouais. Je voulais qu'on ait quelque chose d'un peu plus solide, et puis en même temps, quand on regarde le calendrier, on peut choisir, par exemple, personne cis, personne trans, ou les droits juridiques, et consulter une partie de ce calendrier-là. Donc, j'espère qu'on va continuer de le mettre à jour et j'espère qu'on ne mettra pas à jour trop les reculs. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouvais ça important d'avoir cet outil-là.
Bien, félicitations encore.
Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Lynn Chamberlain, donc, qui fait partie de ce groupe, qui a parti donc le projet Sa vie LGBT. C'était le gala Émergence ce week-end dernier et on a remis des prix. Important. Après la pause, on va parler avec l'autrice Virginie Chaloux-Gendron et avec le dramaturge Pierre-Michel Tremblay.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
L'enfer, c'est de ne pas m'aimer. Au mieux, l'indifférence. Comment envoyer la douceur dans la belligérance? La gentillesse dans le conduit auditif. Solar ne pleure plus, vous serez aussi positif. On va cacher le paradis derrière un calembour. La mission pour l'univers des rappeurs de l'amour. Jamais à la bourre, ami confidentiel. Mon verbe tombe de là-haut, confidentiel.
C'est confidentiel, mais faut le rendre public. Parfois, l'exceptionnel peut devenir plus cyclique.
Carreau qui pique ton cœur, la faute a pas de chance. J'ai la solution, 1000 appels en absence.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer? Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
On ne peut pas ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser. On ne peut pas
ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser.
Tu ne peux pas.
Ox. Mat le paradoxe, flow hors de la boxe, qu'on détecte l'intox. Vrai que le rasta a des locks, qu'avec les mots tu boxes, les cymbales font. J'ai trouvé l'inspiration chez Olympe de Gouges. Et si tu vois des bananas bleues ou rouges bouge. Reprocher à l'Égypte les pyramides de Gizeh. Si oublier le fond, tu ne peux pas ne pas nous aimer.
Chaque jour je cultive l'envie, aucun conseil à offrir, suffit de lire nos vies. On a traversé les titres de livres d'Émile Zola. Faut porter le N-word pour haïr Solar.
Mama Lova, ils se pavadent dans des govas. Ne veulent pas connaître la slola que leur dire avant le go fast.
On pèse plus qu'une tonne de rumeurs.
Nous vous laissons plus que de bonne humeur. Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer? Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer.
On ne peut pas ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser. On ne peut pas
ne pas m'aimer. Chaque jour ça va t'embarrasser. S'il faut tendre l'autre jour, on va devoir s'embrasser.
Tu ne peux pas.
Est-ce que c'est possible de ne pas m'aimer? Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer. De ne pas m'aimer. Je crois que c'est impossible de ne pas t'aimer. Tu ne peux pas.
Ne pas m'aimer, une chanson de Oxmo Puccino. On entendait aussi MC Solar.
Après avoir marqué les esprits avec son premier roman, qui s'appelait Faire des beaux rêves, elle nous revient avec Tout cela m'appartient, un puissant récit d'autofiction publié aux éditions du Boréal. L'autrice Virginie Chaloux-Gendron y aborde le thème délicat et complexe de la violence conjugale, non pas pour dénoncer, mais pour explorer les failles intérieures et la lente reconquête de soi. Virginie Chaloux-Gendron, bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup pour l'invitation.
J'ai lu le livre ce week-end et ça m'a interpellé. J'avoue que ça ne laisse pas indifférent les lecteurs et les lectrices. Dans votre premier roman, la plume était décrite comme incandescente et agitée. Pour Tout cela m'appartient, on parle d'un récit assuré, construit autour des silences, des non-dits, avec des chapitres très courts. Je peux en témoigner. Comment ce changement de style vous a aidé à aborder ce sujet qui est quand même lourd de la violence conjugale?
Oui, c'est sûr qu'il y a une grande différence entre les deux ouvrages, comme vous le mentionnez. L'écriture fragmentaire s'est révélée être pour moi une nécessité. Dans Tout cela m'appartient parce que ça révèle beaucoup cette espèce d'écarquellement que j'ai vécu durant ces deux années, qu'a duré la relation. Et l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de l'écriture était très différent aussi de mon premier roman. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus sereine, j'ai envie de dire, beaucoup plus posée à distance des événements, ce qui fait que je me suis vraiment permis de me limiter à l'essentiel.
On sent à la lecture de ce roman que vous... Je pense pas que vous cherchez à dénoncer, j'ai pas ressenti ça, mais on sent plus une personne qui veut reprendre ses droits sur sa vie, sur son histoire. Est-ce que je me trompe?
Exactement. Ce n'est pas une littérature qu'on pourrait appeler une littérature de combat. Je ne parle pas au nom d'une cause nécessairement ou au nom de d'autres personnes qui auraient vécu la même chose que moi. Donc, c'est plus une littérature de réappropriation, un témoignage, le témoignage d'une expérience qui est celle que j'ai vécue et que je souhaite partager avec les gens qui veulent bien me lire.
J'avoue là que j'ai trouvé des phrases dans votre roman. C'est un roman autofictif. On va quand même le dire, là, c'est pas une biographie, c'est un roman autofictif qui fait appel à beaucoup à nos émotions quand on le lit. Je veux lire quelques petits bouts de phrases, moi, qui m'ont vraiment interpellé. « Sa brutalité me donne corps. Chaque parole, chaque coup me fait passer de dessin à maquette, de maquette à statue. Mes trous me libèrent de mon poids. » Comment ce choix d'écriture vous a-t-il aidé à décrire cette relation toxique, surtout dans une perspective, hein, c'est intime. Vous parlez de ce qui vous est arrivé et je trouve que c'est courageux de le faire, mais en même temps, c'est essentiel. Alors, comment cette façon d'écrire vous a aidé?
Ça m'a aidé de plusieurs manières. À la base, j'écris aussi beaucoup de recueils de poésie, donc la poésie, c'est mon langage premier.
Tout à fait.
Alors, on le retrouve un peu partout, là, même dans une écriture qui est un peu plus prosaïque. Et ça m'a aidé à mettre ce que j'ai vécu en image, tout en essayant de rester le plus près possible du réel. Ça m'a permis, je reviens à ça, là, de me réapproprier mon histoire sans être nécessairement trop frontale. Donc, je ne voulais pas tomber dans une espèce de voyeurisme qui, moi, m'aurait dérangée. Je voyais pas là, quelle aurait été la pertinence, on va dire, de nommer exactement là, chaque geste violent de façon très, très frontale. Ça aurait manqué un peu de douceur. Puis moi, j'ai vraiment besoin là, de retrouver cette quiétude-là et cette douceur-là dans ma vie. Alors, c'est important pour moi d'écrire un livre qui me ressemble et qui ressemble à la personne que je suis rendue aujourd'hui.
Ce livre a été écrit sur une période de 10 ans, quand même. Comment cette écriture longue, dans le cas de Tout cela m'appartient, comment ça a contribué au processus, votre processus de guérison et de reconquête là, de qui vous êtes et de votre histoire?
Ça m'a aidé certainement à évoluer. en tant qu'être humain ayant vécu là, cette expérience-là. Puis on dit que le temps arrange les choses, puis même si c'est un cliché, je pense que c'est vrai. Cette écriture-là qui s'est échelonnée durant plus longtemps m'a permis d'essayer plein de choses, m'a permis de me tromper aussi dans l'écriture, de revenir sur mes pas pour finalement aboutir à un livre qui me ressemble et qui correspond exactement à ce que je souhaitais et à la manière dont j'ai vécu cette relation-là.
Il y a un autre extrait du livre qui m'a vraiment interpellé aussi. Je vais lire, c'est juste une, deux phrases. Pourquoi est-elle restée aussi longtemps? Voilà une question que plusieurs se posent lorsqu'ils apprennent qu'une personne de leur entourage vit ou a vécu de la violence conjugale. Si la réponse était simple, nous serions toutes à l'abri. Wow! J'y vois un appel à déconstruire ces espèces d'idées préconçues. Comment vous expliquez-vous ce manque de bienveillance que les gens ont pu avoir à votre égard?
Je pense que les gens sont pas mal intentionnés. Par contre, c'est des situations qui sont peu courantes, on va le dire comme ça, même si ça arrive plus souvent qu'on pense. Les gens sont pas confrontés à ça, là. Souvent, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les gens de leur entourage. Alors, les gens ont souvent une fâcheuse habitude de tout polariser, de voir le monde d'une façon très binaire, là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est noir ou c'est blanc. Puis, quand c'est pas blanc, c'est très clair. Là, tu t'en vas, puis ça s'arrête là. Puis, on se pose pas de questions. Mais dans les faits, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là ou comme tant d'autres aussi, on peut se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et je pense que les gens ont un malaise aussi. Là, quand je dis les gens, là, je ne veux pas généraliser, mais plusieurs personnes ont un malaise aussi à entendre parler de ces choses-là. Peut-être un manque de courage aussi en tant que société de recevoir les confidences, par exemple, de gens qui vivent des situations de violence conjugale ou autres. Et une volonté de tout régler très rapidement parce qu'on ne sait pas comment faire face à ces situations-là. Donc, souvent, on va tomber dans des réflexes très simplistes, du genre, ben, t'as juste à t'en aller, puis tout va être réglé. Alors que, même dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors,
ouais, si c'était si simple. J'ai beaucoup aimé ce passage-là parce que je trouvais que ça répondait à des choses qu'on entend, mais moi qui me font friser les oreilles, si on peut le dire. Vous avez parlé aussi du processus judiciaire par lequel vous êtes passé. Ça revient à quelques moments dans le roman. Puis on voit que c'est pas tout à fait adapté. Alors, je me demandais, comment vous avez réussi à trouver de l'espoir dans tout ça?
Je dis souvent en blaguant que je ne vis que pour l'espoir. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'existence. Ouais. Là, qui vaut la peine d'être vécu. Mais je vous cacherai pas que ça a été un long chemin de croix. Même si ça s'est sommairement bien passé, au sens où moi, dès le départ, on m'a cru, on m'a soutenu, on m'a pris en charge très rapidement. L'imprévisibilité du système judiciaire, les longueurs aussi, ça prend beaucoup de temps, puis on ne sait jamais quand ça va finir par finir. Ça crée énormément d'angoisse. Puis parfois, on peut en venir à effectivement baisser les bras, puis avoir envie d'abandonner parce que c'est tellement anxiogène qu'on se dit qu'il n'y aura pas de fin à ça finalement. Puis c'est très... Moi, j'ai trouvé ça extrêmement déshumanisant comme processus parce que j'avais aucun contrôle. Puis ça, c'est peut-être quelque chose dont on parle pas assez. C'est-à-dire que, bon, quand on dénonce, vient une perte de contrôle extraordinairement grande qui peut nous faire basculer vers une certaine noirceur. Mais bon, il faut apprendre à naviguer là, dans tout ça si on veut se prendre au bout, mais c'est vraiment pas quelque chose d'évident.
Et même, il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser en terminant cet entretien. Comment allez-vous aujourd'hui?
Je vais très bien. J'ai repris le contrôle de ma vie, j'ai envie de dire... Chaque jour, pour moi, est une bénédiction. Je me trouve extrêmement choyée aussi d'avoir pu dénoncer parce que c'est pas partout dans le monde hein, qu'on a cette chance-là de pouvoir être accompagnée, de pouvoir dénoncer là, les situations criminelles qu'on peut vivre. Donc, malgré tous les toutes les difficultés du système logiciel, je me trouve quand même très privilégiée d'avoir pu, d'avoir eu la chance, en fait, de prendre accès pour mettre ça derrière moi afin de pouvoir tranquillement, mais sûrement, regarder en avant.
Bien, Virginie Chaloux-Gendron, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que ce roman tout fictif, Tout cela m'appartient, est publié aux éditions Boréal et disponible en librairie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Quelle est notre place dans l'univers? C'est une question fondamentale que pose la pièce de théâtre Flambant nu, écrite par Pierre-Michel Tremblay. Cette pièce est présentée par la troupe Les Éternels Pigistes au Jésus du 21 au 25 octobre à Montréal, puis elle part en tournée au Québec avec Christian Bégin, Marie Charlebois, Isabelle Vincent et Pierre Paquette sur scène. Cette pièce promet d'être à la fois drôle, touchante et profondément réflexive. Pierre-Michel Tremblay, merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous retrouvez les Éternels Pigistes pour la première fois depuis plusieurs années. Comment s'est déroulée cette réunion ou cette rencontre, cette retrouvaille créative?
Ah, ça s'est passé très simplement. En fait, Marie reste pas très loin de chez nous. On est quasi voisins. Puis elle m'a demandé si je voulais réécrire à nouveau pour les Éternels Pigistes. J'ai dit, bon, laisse-moi y penser. Puis 15 minutes après, il y avait plein d'idées qui avaient surgi dans ma tête. Fait que j'ai envoyé un texto, j'ai dit hey, on le fait. Ah. Fait que, après ça, ben, ça a été. J'écrivais des tableaux, on se réunissait, on jasait ensemble, je réécrivais, et ensuite c'est parti en processus de répétition. Alors voilà, ça s'est passé vraiment simplement.
C'est quand même le fun, hein, cette complicité exceptionnelle, puis ça dure depuis 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça apporte quand on est auteur puis qu'on est en train d'écrire une pièce donc, qui s'intitule Flambant nu, on va y revenir, mais cette complicité-là, ça doit être génial, là.
Oui, bien, en fait, c'est vraiment un peu l'image là, de, tu sais, quand on dit on fait du vélo, ça se perd pas, là. De réembarquer avec eux, tu sais, moi, en 10 ans, j'avais écrit 3 pièces pour eux, puis co-écrit une série télé avec Christian et Isabelle. Fait que j'avais vraiment l'impression que j'avais beaucoup écrit pour eux, puis j'avais envie que mon écriture se frotte à d'autres mondes un peu, d'autres acteurs, d'autres actrices, d'autres énergies. Et là, ben après tant d'années, les retrouver, ça a été vraiment comme l'autre expression qu'on dit souvent, retrouver des vieux amis, c'est comme si le temps n'avait pas passé. Mm-hmm. Ben, c'était un peu ça. Puis je dirais qu'aussi, on était rapidement sur la même longueur d'onde sur ce qui allait fonctionner ou pas quand on faisait le travail de table là, pendant l'écriture.
La pièce nous plonge au cœur d'une question, comme je l'ai dit en introduction. Quelle est notre place dans l'univers? C'est une grosse question, en fait. Hein? Mais comment vous avez réussi à aborder un sujet de manière accessible, tout en restant dans une espèce de le registre hein, de la comédie existentielle?
Oui. moi, je me passionne beaucoup d'astrophysique, puis je n'ai pas, je pense, les ressources mentales nécessaires pour devenir astrophysicien. Ça fait que ça fait longtemps que je m'intéresse aux multiples univers, aux possibilités, quand on regarde, on est une des seules espèces hein, qui lève la tête vers les cieux puis qui regarde les étoiles puis qui essaie de lire le ciel là, tu sais, ça fait que ça a toujours été pour moi une sorte de vertige. Puis rapidement, au fil des tableaux qu'on a choisis, ben cette trame-là, c'est comme est comme apparue. Puis après ça, ben évidemment, j'ai fait une réécriture qui allait dans ce sens-là. Je prétends pas répondre à cette question-là, mais il y a peut-être des petites pistes de réflexion, en fait, quand on sort du spectacle là, qui se déposent en nous.
Ben, moi, j'avoue que comme spectateur, je ne m'attends pas à avoir des réponses quand je vais voir un spectacle, mais j'attends, je m'attends à ce qu'on me fasse réfléchir, même quand on me fait rire. Hein, ça fait partie
c'est des ça. Choses. Ouais. C'est en plein ça l'idée. C'est pas, il n'y a pas de propos moralisateurs, puis il n'y a vraiment pas de réponse. Là, c'est vraiment plus il y a une perspective intéressante qui est soulevée là, peut-être. On ressort en tout cas habité de réflexion. Pour la pièce, elle a été présentée ce soir au Patriote. Hein, oui. Puis on a reçu quelques commentaires déjà. Ça fait qu'on sent que les gens rigolent, les gens ont du fun et qu'il y a des choses qui se déposent aussi. Là.
Ah, moi, j'avoue, je n'ai pas encore vu la pièce, mais le titre me fait m'interpelle, me fait rire un peu. Flambant nu, cette on va se dire, ça frappe un peu. Et on comprend qu'il est question de se mettre à nu. D'être authentique. Dans le contexte de la pièce, avec la, je peux-tu le dire, la gang de drôles, de fous là, avec laquelle vous travaillez, ça signifie quoi concrètement pour les personnages?
Ah, ben là, c'est que il y a un trajet qui s'en va vers ça, puis il y a une façon d'être flambant nu qui n'est pas nécessairement celle qu'on pense.
Ouais.
Puis aussi, les pigistes, ben, ils ouvrent en un peu en temps. Que personnage d'un cœur, qui est un clin d'œil à une autre des pièces que j'ai écrites qui s'appelait Le rire de la mer. Donc, ils sont un peu un cœur qui cherche leur place dans l'univers et ils vont passer à travers plusieurs identités pour revenir à la fin d'être dépouillés de ces identités-là. Il y a un monsieur de scénarisation qui dit dans un de ses livres, là, je cite ça de mémoire, j'oublie son nom, mais il dit de l'identité à l'essence. Puis c'est un peu, je dirais, le parcours de la pièce pour les personnages du cœur.
Alors, cette espèce de vulnérabilité aussi quand on est à nu, puis on peut être à nu de plusieurs façons, je comprends, c'est quand même, ça nous amène une espèce de vulnérabilité. C'est la clé hein, pour aborder ces questions-là?
Bien, je pense que oui. Puis des fois, il y a vraiment des choses qui quand on est, je vais dire un mot anglais, qu'on est plugué avec ce qui nous entoure, c'est là tout d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans cette espèce de dépouillement-là de nos identités-là.
Pierre-Michel, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez écrit cette pièce-là, on parle d'une succession ou des tableaux. C'est pourquoi avoir choisi cette structure?
C'est une structure qui va bien avec les éternels pigistes, en fait, entre mon écriture et les éternels pigistes, parce que quand j'ai commencé à écrire pour eux, ils sont tellement versatiles et doués comme interprètes que c'est le fun de les voir jouer toutes sortes d'affaires sans nécessairement qu'ils changent au niveau des perruques puis des costumes puis tout ça. Fait que c'est comme une traite que je me paye puis que je leur paye ou puis qu'on paye au public aussi de voir plusieurs personnages pour le prix de quatre interprètes là, tu sais. Ça fait que c'est un peu ça la structure des pièces que j'ai écrites avec eux, quelques humains, Le rire de la mer puis Millefeuille. C'était aussi des pièces à tableau soutenues par une thématique. Fait qu'on a eu le goût de retrouver ça, d'autant plus que il est pas certain là qu'il y ait une autre pièce, en tout cas des éternels pigistes. Christian mentionne qu'il veut peut-être pas continuer à faire du théâtre. Puis la pièce est en tournée, comme vous l'avez mentionné au début, jusqu'en probablement 2027. Ils sont pas jeunes, hein? Ça fait que c'est ça. Ça, c'est une autre chose que je trouve extraordinaire aussi, voir ces quatre interprètes-là. Puis vous l'avez mentionné, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire du théâtre au Québec, en tout cas à ma connaissance, d'une troupe qui joue ensemble depuis 28-29 ans.
Ah, puis ils ont du fun ensemble. Quand je disais une bonne gang de fous, c'est parce qu'ils ont du fun ensemble. J'ai vu certaines pièces, là, moi, ils me font rire, ces gens-là. On parle donc d'une forme un peu fragmentée, multiplication de personnages. Comment ça sert pour traiter là, l'absurdité et le propos de la complexité du monde actuel là, qui est dans cette pièce?
Ben, en fait, il y a toujours un moment où ils sont en solo, puis ça ouvre sur un nouvel univers, parce qu'on évoque la théorie des univers multiples, mais pas la façon Marvel, là, tu sais, où tout d'un coup, c'est d'autres univers, on va dire, absurdement réalistes. On n'est pas dans... À part un tableau, là, où je me contredis moi-même, à part un tableau, mais sinon, on est souvent dans des univers qu'on va reconnaître. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui, les gens aussi sont beaucoup dans leur chambre d'écho qu'on appelle. Hein, puis donc, ça devient presque une bulle univers. Puis on communique pas beaucoup entre ces différentes bulles univers-là. Fait que c'est un peu ça. Mm-hmm. À part, comme je vous disais, le premier tableau, où là, on est dans quelque chose de où c'est plus délirant un peu au niveau de la mise en situation.
Mm-hmm. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, je vais au théâtre comme spectateur. J'aime bien rire et je vais pas chercher de réponse. Je cherche à réfléchir. Alors, c'est quoi le rôle de l'humour, selon vous, pour faire passer des idées aussi importantes, des idées existentielles, et comme on dit, pour poser les grandes questions sans chercher à les résoudre?
Ben, en fait, c'est que ça apporte une détente parce qu'on a du fun, on sent qu'on se fait pas faire la leçon, on n'est pas là pour avoir un cours de quelque chose. Fait que le but premier, c'est vraiment de passer une belle soirée puis d'avoir du fun. Puis en une sorte de bonus, ben il va y arriver le propos, puis les questionnements, puis peut-être une petite réflexion, puis c'est chacun va prendre ce qu'il veut à l'intérieur de ça. Mais l'humour, c'est presque un lubrifiant là pour faire passer des propos. T'sais, si on évoque Clémence, Yvon Deschamps, nos grands humoristes, hein, il y avait toujours un propos, mais on allait les voir parce qu'ils nous faisaient rire. Puis en même temps, on savait qu'elle allait aborder des choses qui nous préoccupent, là.
Ben, c'est ça. Écoute, on a bien hâte de voir ça. Donc, la pièce Flambant nu, écrite par Pierre-Michel Tremblay, est interprétée par les Éternels Pigistes. C'est à l'affiche à compter du 21 octobre jusqu'au 25 octobre. Puis ça part en tournée là, pour l'année prochaine et peut-être même jusqu'en 2027. Pierre-Michel Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, ça a été un grand plaisir.
À la prochaine.
Bonne journée. Bye.
Temps de vous faire quelques petits textes. Eh bien voilà, la relève du 18 octobre. Un nouvel établissement de réadaptation jeunesse a récemment ouvert ses portes à Boucherville sous la gestion du CIS de la Montérégie. Ce centre est destiné à accueillir des jeunes aux prises avec des troubles de comportement ou des troubles du spectre de l'autisme et qui présentent également une déficience intellectuelle. L'objectif de cette nouvelle installation est de fournir un milieu de vie adapté et sécuritaire qui facilitera leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Il est à noter que pour des raisons de sécurité et de confidentialité entourant cette clientèle, l'adresse exacte de l'établissement ne sera pas divulguée publiquement. Sur le site web de l'organisme, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario a récemment publié une étude pour mettre en lumière les préjugés de la discrimination et de la discrimination en milieu de travail. L'analyse, utilisant notamment l'échelle révisée de discrimination quotidienne, révèle que les personnes infirmiers et infirmières noirs sont les plus souvent victimes d'incidents de discrimination. Les résultats indiquent aussi une sous-représentation des personnes racialisées au poste de direction. Aussi, les infirmières de 55 ans et plus se disent dévalorisées et exclues des promotions. Pour l'OIIO, la création de milieux de travail flexibles et inclusifs est essentielle pour bâtir un système de santé résilient et garantir la sécurité des patients. Un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hélène Denis sera de retour demain. Je remercie d'ailleurs Hélène qui m'a aidé à la recherche de cette émission. Merci aussi à Mathieu Tessier qui assurait la mise en onde aujourd'hui. Ça va être un petit lundi pluvieux, tristounet, un peu partout au Canada. C'est comme ça. On s'en va vers l'automne. Puis comme je l'ai dit, dans 66 jours, ça va être le réveillon de Noël. Alors, il faut s'habituer. Il y a de la neige qui s'en vient. Là, c'est le temps. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. Thank you.